Bonsoir à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court. Tous les soirs, on ouvre une conversation d'une heure avec les artistes. Ce soir, c'est avec Joe Sacco.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter,
péter. Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-t-on ? Parlez-t-on qui court ?
Marie de Chaux avec Joe Sacco.
Pendant longtemps, la parole des Amérindiens, leurs savoirs ancestraux relatifs à leur environnement vivant, aux animaux, aux saisons, à la chasse, leur parole tout court n'avait aucune valeur. La tradition orale n'était jamais prise en compte, alors qu'elle portait, ou peut-être justement parce qu'elle portait, seule, contre le silence de l'histoire, la trace de la colonisation et le passé des Premières Nations. En 1997, la Cour suprême du Canada a reconnu que cette tradition orale pouvait constituer une preuve juridique, ouvrant la possibilité aux autochtones de raconter leur vécu, leur propre vécu, même si cela devait contredire les textes historiques. Il se trouve que dans votre dernier ouvrage, Joe Sacco, c'est précisément un homme qui prend la parole en premier. Depuis les souvenirs rapportés de sa propre naissance, la vie dans la forêt, dans la communauté des Dénés, jusqu'aux négociations relatives par exemple à la fracture hydraulique ou le rapport à une forme de modernité. C'est une plongée saisissante dans des questions complexes que vous nous proposez, mais toujours émouvantes, car toujours près des visages, des corps, des voix, des arbres et des animaux. C'est un album qui s'appelle « Payer la terre ». Il est publié aux éditions Futuropolis. Et 21. Bonsoir à vous, Joe Sacco.
Thank you. Good evening to you.
Bonsoir.
Et bonsoir, Marguerite Capel. Soyez la bienvenue, vous serez la voix française de Joe Sacco pendant une heure. On entre tranquillement, les pas dans la neige, dans cet album-là.
Mon grand-père me raconte qu'il voyageait dans un bateau en peau d'orignal quand je suis venu au monde. On ne savait pas quoi faire de toi, m'a-t-il dit. On voyageait, on était occupés, on n'avait pas le temps de prendre soin d'un bébé. Alors il m'a pris et m'a installé à l'avant du bateau. J'ai passé grosso modo les 10 premières années de ma vie dans la forêt. On avait très peu de contact avec le monde extérieur. On allait en ville une ou deux fois par an. Dans la forêt, on vit au contact de la terre et des animaux. On apprend à entretenir de bonnes relations avec eux, car ils sont très importants pour nous. En fait, on mesure l'importance du monde qui nous entoure. On devait se lever tôt, en général à l'aube, pour pouvoir saluer le soleil. Et on se couchait de bonne heure, pour laisser les autres esprits faire leurs affaires pendant la nuit. Par exemple, se rendre visite, et venir nous voir dans nos rêves. Je me rappelle que nos vies nous étaient dictées par l'environnement, par les animaux. Il y a une passe de poissons à tel endroit. C'est le moment d'aller relever les filets. La peau d'orignal est épaisse en ce moment. Il est temps de chasser l'orignal. On mangeait de la viande 3 fois par jour, beaucoup de poissons aussi, et des baies. Quand tu es nomade, tu es obligé de voyager léger. Il faut pouvoir aller vite. Comme il fallait tout faire rapidement, on ne transportait que le strict nécessaire. Les gens avaient en moyenne 5 ou 6 attelages, des attelages de chiens, quelquefois plus. Par famille ? Ouais, c'est comme ça qu'on voyageait. On faisait entre 10 et 13 kilomètres par jour, jusqu'à ce qu'on arrive où on voulait aller. Pendant l'hiver, le traîneau sert à transporter tout le matériel. On n'a pas le luxe de voyager dedans. Et pendant l'été, Le plus souvent, on marchait à côté des chiens, chargés de sacs.
Joe Sacco, Romain de Bec de Lièvre, lit donc le tout début de votre livre « Payer la terre ». Et il faut dire que cet homme qu'on entend parler, dont vous retranscrivez les mots, d'abord on le rencontre comme un nourrisson. C'est son corps d'enfant, son corps de tout petit enfant qui est en pleine page et qui ouvre ce très beau livre, c'est le dessin de son corps. Alors peut-être avant de dire qui il est, de nous dire comment vous l'avez rencontré, d'où il vient, d'où il parle, nous dire pourquoi est-ce que vous choisissez ce gros premier plan.
I wanted to show, you know, obviously this is through my eyes, this first image.
Bien sûr, c'est mon regard. But I wanted to show this beautiful moment where a person is born into a world. Je voulais montrer ce moment très beau où quelqu'un naît dans un monde pour montrer ensuite comment ce monde a changé. Le monde dans lequel cette personne est née va changer au travers du livre.
Il se trouve que c'est à plusieurs égards, en effet, des moments de naissance, de mort de certains mondes, parfois aussi de renaissance, parce qu'il y a aussi des moments comme ça où même si la communauté est chahutée, même si la communauté dont on va parler beaucoup est au proie avec la drogue, l'alcool, la violence, il y a aussi des moments comme ça de retrouvailles avec des savoirs ancestraux et des manières de se réinventer. Alors on va dire qui est ce Paul Andrew dont on entendait la voix à travers celle de Romain de Bec de Lièvre, Joe Sacco.
Paul Andrew is a Dene man from
Paul Andrew est un Dene.
Community called Tulita.
C'est un homme qui vient d'une communauté qui s'appelle Tulita. Je l'ai rencontré à Yellowknife.
And we started talking and I
realized right away. On a commencé à discuter, j'ai réalisé très vite qu'il était la personne parfaitement indiquée pour raconter l'histoire de cette manière-là. J'ai entendu des bouts de cette histoire de la voix de beaucoup de personnes. Mais lui semblait être capable de commencer vraiment au début de façon très naturelle.
The whole course of his life, basically.
Et de raconter tout le cours de sa vie, en fait.
Great picture, I think, of what
il m'a donné une image formidable de ce à quoi ressemblait la vie quand on grandit dans la forêt. Les petites cellules familiales qui vivaient dans la montagne, la manière dont elles travaillaient ensemble, chaque personne ayant son rôle, la façon dont ils vivaient avec les saisons, les animaux, et en particulier sur la terre.
Est-ce qu'il faut toujours comme ça trouver l'homme ou la femme, en tout cas la figure qui va pouvoir porter un récit pour que le livre commence vraiment, pour que le travail sur le livre commence vraiment, Joe Sacco?
Well, you have many voices, but every now and then a voice comes along.
Il y a beaucoup de voix différentes, mais de temps en temps, il y en a une qui apparaît et on se dit, c'est exactement ce que je cherchais. Et quand je l'ai rencontré, j'ai eu vraiment l'impression de vivre ce genre de moment. Voilà quelqu'un qui était capable de raconter une histoire toute entière, d'une façon très calme. Depuis l'époque où il a grandi, sa vie avec sa famille, jusqu'au moment beaucoup plus dur, ce qui est arrivé au Dene.
C'est intéressant que vous parliez de, à la fois, deux dimensions de son récit, sa capacité d'embrasser, comme ça, quelque chose de très large, très vaste, comme si vous cherchiez des choses complètes dans les récits, et en même temps, son calme. Sont quoi les deux qualités de la parole que vous cherchez de manière générale? Parce qu'il faut quand même dire, Joe Sacco, que c'est un livre qui s'inscrit aussi dans un travail au long cours, qui est votre manière de raconter le monde à différents endroits. Pour le raconter, il faut être calme et large.
Well, I think the Paul Andrew story is simply
je pense que l'histoire de Paul Andrew est une histoire calme et magnifique. Discrète. Et je voulais la raconter exactement comme il me l'a présenté. Il était très calme. Mais une phrase après l'autre, en déroulant son histoire, j'avais envie, en fait, de montrer ce rythme, de le faire ressentir. J'ai essayé, par exemple, normalement je mets les mots dans des cases, et en fait j'avais envie de libérer les mots de ces cases. Parce que je pense que ces cases sont finalement une façon abstraite de représenter la pensée occidentale.
Là, elles apparaissent comme ça sur la page, ces phrases, et on sent presque votre oreille dessiné. Alors du coup, on se demande qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a enregistré pour retranscrire ce rythme-là? Est-ce que vous avez pris des notes? Ou est-ce que lorsque vous écoutez, vous gardez ça?
No, I fortunately I record these sorts of conversations.
Heureusement, j'enregistre ce genre de conversations.
I transcribe my own tapes.
Et je fais des transcriptions de mes propres enregistrements parce que j'ai envie de réécouter les personnes qui parlent et de réécouter justement ce calme, cette manière de présenter son histoire et de le refléter dans le dessin.
On a commencé par du son, des ambiances qui ont été tournées il y a quelques années par Bernard Charron, donc ces chiens de traîneau, ces pas dans la neige, ce vent. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel paysage vous avez rencontré? Parce qu'il y a une importance extrêmement fine donnée à ces paysages, aux arbres. Je ne sais pas si ce sont des bouleaux, ça ressemble à des bouleaux, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. En tout cas, on sent qu'il y a une attention très précise donnée à cela. Alors, dans quel paysage vous avez travaillé, Josako?
The landscape is one of the characters in the book.
Le paysage est un des personnages du livre.
In fact, for the Dene people,
je pense que pour les Dene, la terre, c'est vraiment ce dont ils parlent tout le temps. Donc j'avais besoin de montrer au lecteur ce que c'était cette terre vaste et magnifique, de la lui faire ressentir. Et en faisant ça, il fallait montrer un voyage de plusieurs jours que nous avons fait le long du fleuve Mackenzie. Je voulais passer par là pour faire ressentir vraiment ce qu'étaient ces arbres, ces collines, ces routes sinueuses, et embarquer le lecteur avec moi jusque sur cette terre. Que les Dene, le peuple Dene, m'expliquaient et ils m'expliquaient ce que ça signifiait pour eux.
Pour ce qui est des images venues du passé, la naissance de Paul Andrew, la manière dont il vivait à l'époque, comment ça s'est passé? Vous avez travaillé sur des documents historiques, vous avez imaginé, avec quoi vous avez dessiné?
I would never try to imagine this.
Je n'essaierai jamais d'imaginer ça.
Of course, you have to use your artistic sensibility.
Bien sûr, il faut utiliser sa sensibilité artistique.
There's a very good archive in
Yellowknife. Mais il y a beaucoup d'archives, au musée de Yellowknife notamment, avec toutes sortes de scènes de ce type qui étaient disponibles en plus en ligne, des photographies. Donc j'avais beaucoup de choses à regarder. Et puis quand j'ai posé des questions à Paul Andrew, je lui posais des questions très visuelles. Plus tard, quand je lui ai posé des questions, par exemple, sur la manière dont on prenait de la sève, des arbres, pour faire une sorte de colle, je lui demandais toujours quel genre d'arbre est-ce que c'était, et il me répondait. Et puis à la fin, je lui ai envoyé tout le chapitre pour qu'il puisse regarder. Et j'étais très inquiet, parce que bien sûr, je raconte une histoire qui n'est pas la mienne. Mais il semblait satisfait. Et donc ça, c'était vraiment la validation ultime dont j'avais besoin.
Vous dites toujours, Josako, que pour aller dans un endroit, pour décider de raconter un endroit du monde, un conflit souvent, c'est des scènes conflictuelles sur lesquelles vous vous rendez, il faut que vous soyez intimement convaincu de la nécessité d'y aller. Mais j'entends là une nécessité personnelle d'y aller. C'est-à-dire que vous ne répondez pas à des gens qui vous appellent en disant « il faut que tu nous dessines, il faut que tu racontes notre histoire ». Alors qu'est-ce qui vous a poussé à aller là-bas, rencontrer ces gens et ces paysages?
Eh bien, étrangement, justement, je voulais échapper au territoire de conflit. Mais en fait, ce que j'ai appris en faisant ce livre, c'est qu'on n'y échappe jamais. En fait, c'était une histoire de conflit. Mon idée de départ, c'était de faire un livre sur les peuples autochtones et l'extraction des ressources naturelles, et de montrer les liens. Le livre parle de ça, mais pendant que je faisais ça, pendant que j'y travaillais, il m'est paru évident que le livre parlait de quelque chose de beaucoup plus large. Il parlait de colonialisme, finalement, de colonisation, et de la manière dont la colonisation continue à avoir un impact, même après le moment où on croit qu'elle est finie, pendant des décennies. Et ça continue à avoir un impact.
J'ai commencé en rappelant ce moment très important de la Cour suprême du Canada en 1997 qui constitue la tradition orale et les récits des peuples autochtones en preuve possible dans des procès, comme des paroles qui peuvent avoir un poids juridique, y compris si elles vont contre l'histoire. Il se trouve que dans ce livre-là, le poids donné à la parole est un poids aussi très, très fort, non seulement très sensible, mais on sent très fort. Comment est-ce que vous avez pris connaissance de ce tournant de 1997?
Well, I mean, the Dene people... They tell their history by stories.
Eh bien, les Dénés racontent leur histoire au travers de contes d'histoire. Justement, leur culture est basée sur le récit. Et la première fois que le gouvernement a reconnu ça de façon officielle, c'était pendant l'enquête Berger, où les gens ont été interrogés sur leur rapport à la Terre et les traités qui avaient été signés. Nous, en tant qu'Occidentaux, quand on regarde un traité, si on regarde ceux qui ont été signés par les Autochtones, on voit très clairement qu'ils ont abandonné leur terre. Mais eux, ce n'est pas comme ça qu'ils s'en souvenaient. Ils se souvenaient des promesses orales qui leur avaient été faites, qui n'étaient pas écrites. Et c'était ça qui comptait à leurs yeux. Donc clairement, cette décision de la Cour suprême était tout à fait indiquée parce qu'elle a donné justement ce poids à cette tradition orale. On entend ces histoires au sujet des traités parmi le peuple déné. C'est une histoire qui est largement partagée.
Et qui permet de réécrire une partie de l'histoire de ces grands territoires avec la voix de ceux qu'on n'avait pas jusque-là éventuellement consignés ou dont on n'avait pas pris en compte les récits, parce que d'un seul coup, la version de l'histoire est quand même très différente, Joe Sacco, quand on fait rentrer les promesses orales dans les négociations.
Yeah, it's very different. I mean, as
oui, c'est très différent.
Westerners...
Les Occidentaux, et en particulier les historiens occidentaux, ont besoin que tout soit marqué sur du papier. Si ce n'est pas sur un bout de papier, c'est suspect. Dans d'autres cultures, on ne pense pas comme ça. Parfois, un papier peut mentir ou ne peut dire qu'une demi-vérité. Est-ce que les Dénés ont cédé tous leurs titres sur la terre ? Comme le prétendent ces documents juridiques, je ne crois pas, ils ne le croient pas. Leur tradition orale devrait peser également. Tous les gens ne pensent pas de la même manière que les Occidentaux, de la manière dont moi j'ai été formée à réfléchir.
Vous dites, Joe Sacco, c'est un livre qui m'a appris qu'en fait on ne peut pas s'éloigner aussi loin qu'on voudrait du conflit. Alors que vous avez commencé ce livre en vous disant que peut-être en allant sur ces terres-là, vous en seriez tenu, éloigné. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin de prendre de la distance avec cette conflictualité ?
Je crois que
je me suis promis que je ne redessinerai plus jamais de Kalachnikov de toute ma vie.
Je n'avais
plus envie de dessiner ce genre de choses, en fait. C'était un peu le burn-out. J'avais envie d'autre chose. Mais comme je l'ai dit, quand on arrive au chapitre sur les pensionnats, on se rend compte en fait que c'est des sujets très compliqués, très durs. On peut essayer de briser un peuple à l'épée, comme on a pu le faire avec nos propres autochtones aux États-Unis. Au Canada, ils ont essayé de briser ce peuple avec des écoles. Et c'est extrêmement violent quand on voit ce qui est arrivé aux enfants. C'est vraiment très violent.
Et à ce propos, on va écouter une archive de Denis Delage.
Fin 19e, début 20e siècle, le Canada a eu pour politique de sauver l'homme en tuant l'Indien. Ce qui voulait dire détruire l'identité indienne qui était un reste, une trace du passé pour faire des Indiens, des gens modernes, contemporains, qui ne soient plus des enfants de l'humanité. Et comme on n'était pas arrivé à le faire jusqu'à présent, on a considéré que la seule manière pour y arriver consistait à isoler les enfants de leurs parents. Dès la première année du primaire, on retirait les enfants des familles, on les amenait dans des pensionnats où, bien sûr, les langues indiennes étaient interdites et où il fallait les élever pour en faire des petits blancs qui allaient parler français ou le plus souvent anglais, mais pas leur langue. Et ces pauvres enfants ne revoyaient leur famille qu'une fois par année pour à peu près un mois, ce qui a donné lieu à des ruptures, en même temps qu'à une grande douleur tant chez les parents que chez les enfants. Et le Canada a reconnu cette erreur et a accepté de verser des argents pour réparer ces choses. Il y a donc, dans beaucoup de communautés indiennes, des retours sur la mémoire des pensionnats et on essaie de rétablir le lien avec les parents, avec les vieux qui vous ramènent à certaines activités traditionnelles.
Cher lecteur, il y a quelque chose qui plane au-dessus de ces histoires. Quelque chose qui hante ce projet tout entier, en fait. j'aurais peut-être dû en parler avant. Jusqu'à présent, je me suis contentée de décrire ses effets. Mais nous devons maintenant regarder dans sa direction. Car si la question est « Pourquoi les peuples autochtones des territoires du Nord-Ouest semblent-ils partir à la dérive, abandonnent les traditions qui leur servaient autrefois de point d'ancrage ?» La réponse n'est pas simplement que les peuples de la forêt n'étaient pas préparés à une transformation aussi rapide du monde. La politique officielle du Canada a longtemps consisté à rompre les amarres des peuples autochtones, en fait, à effacer l'essence même de leur indigénéité. Et pour beaucoup de ceux qui vivaient dans la forêt, cette politique fut annoncée par le vrombissement de moteurs d'avion. C'est un extrait de votre texte « Payer la terre ». Joe Sacco, et juste avant on entendait la voix de l'historien canadien Denis Delage en 2008, parler de cette politique canadienne dont vous faites un gros passage de votre livre. Je voudrais savoir comment vous avez recueilli les récits de ces hommes et ces femmes qui furent un jour enfants et qui se sont retrouvés dans des dortoirs immenses avec des bonnes sœurs qui leur tapaient dessus, qui leur enlevaient leurs langues originelles, leur être le plus profond.
Well, almost everyone who was my age,
eh bien, presque toutes les personnes de mon âge que j'ai rencontrées parmi les Dénés a grandi dans la forêt et presque chacun avait eu une expérience du pensionnat. Parfois, on parle aux gens et ils le mentionnent très brièvement. D'autres fois, ils commencent à en parler spontanément. Dans certains cas, j'ai juste dit « Est-ce qu'on peut en parler ?» Et s'ils étaient disposés à le faire, j'ai dirigé la conversation dans ce sens-là pour essayer de comprendre comment on les avait arrachés à leur terre, ce qu'ils avaient vécu au pensionnat et comment avait été leur retour à la maison. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. C'est une histoire extrêmement répandue parmi les Dénés. Donc il s'agissait juste de trouver assez de personnes pour pouvoir donner une diversité de voix qui racontent tous plus ou moins la même chose.
Dans ce passage, vous dites en somme que c'est le cœur brûlant, en fait, de tout ce que vous racontez là. C'est le cœur brûlant de ce monde qui change avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Vous le maintenez aujourd'hui, vous hochez de la tête, Joe Sacco.
Oh, that's exactly true.
Oui, c'est exactement
and
ça.
When I went to do this story,
quand je suis allée faire ce livre, j'avais entendu parler des pensionnats. Mais vraiment, ce qui m'intéressait, c'était l'extraction des ressources naturelles. Mais en fait, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Les pensionnats indiens, c'était vraiment une tentative de briser et de détruire la culture des Dénés. Les mots d'une commission qui a étudié la question sont « génocide culturel ». Ce sont les mots de la commission. Et quand on a ce type d'impact sur un peuple autochtone et qu'on brise leurs liens avec leur terre natale, ils ont beaucoup de mal aussi à unir leur voix contre ceux qui les oppriment. Donc tout ça est lié avec le colonialisme, la colonisation et encore une fois avec l'extraction des ressources naturelles.
D'ailleurs, vous en faites la double démonstration, Joe Sacco, c'est-à-dire qu'en même temps, en nous rapportant les grandes difficultés liées à différentes addictions, que ce soit l'alcool et la drogue, des propensions au suicide ou à la dépression, et en même temps, en nous montrant la difficulté, en effet, d'union politique, la difficulté, une fois qu'il s'agit d'aller sur des terrains de négociation, des oppositions comme ça entre différents clans, ou alors quand il faut discuter avec des grosses boîtes d'extraction de ressources naturelles, en fait, c'est comme si toute l'origine, ça venait de ces enfants dont vous décrivez qu'ils ont été battus, humiliés, détruits et arrachés. Vous disiez tout à l'heure, j'avais pris la décision de plus jamais dessiner de Kalachnikov, mais ces pages-là sont les pages les plus violentes de votre livre. Et il n'y a pas de Kalachnikov.
You're exactly right, and it was actually very difficult to draw those pages.
En fait, c'était très difficile de dessiner ces pages.
Enjoy drawing the
Je n'ai pas pris de plaisir à dessiner les pages qui parlent du pensionnat indien.
Also, it's the heart of the book.
Mais comme vous l'avez dit, c'est le cœur du livre.
What you realize, what happened below the border in the United States.
Ce qui se passe au sud de la frontière aux États-Unis. On connaît George Custer. On connaît ses bataille là, mais ils ont fait ça différemment au Canada.
To me, it was a very moving experience to try to draw.
Pour moi, c'était une expérience extrêmement émouvante d'essayer de dessiner ces histoires.
Because they were about people who were sitting in front of me.
Parce qu'elle parlait de ces gens qui étaient en face de moi, qui étaient maintenant plus âgés et qui étaient capables de critiquer les dégâts que ça avait fait chez eux. Beaucoup de gens peuvent en parler de façon critique, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont en fait perdus. En fait, l'après-coup, le traumatisme continue à être transmis.
Et
they talk about the residential. Et quand on parle aux dirigeants sur place, ils parlent des pensionnats comme la source des problèmes de leur communauté. Le fait que les gens ne se parlent plus entre eux, ne prennent plus la parole. Ils avaient l'habitude d'avoir ces enseignants qui leur disaient « ne parle pas, tu ne parleras que quand je te le demande ». Et donc leur manière de discuter et de décider par le consensus a été aussi brisée par ces écoles.
Alors comment retrouvent-ils pour certains ? Pour ceux qui ont la force, le chemin, parfois l'aide, le chemin de l'affirmation. Parce que vous dessinez aussi des pages, Jo Sacco, où des femmes et des hommes reprennent comme ça en main leur destin, leurs paroles et une place politique. Alors par quel chemin ça passe ? Par quelle reconstruction ?
Well, from what I saw, there are young people now.
Il y a des jeunes maintenant qui sont très conscients de ce qu'ils ont probablement perdu, ce qu'ils n'ont jamais appris auprès de leurs parents à cause des pensionnats ou de leurs grands-parents à qui ils ne peuvent plus parler. Ces gens ont très consciemment vendu leurs anciens. Et ces gens très consciemment sont retournés chercher en fait ces anciens, c'est le cas de Paul Andrew, pour essayer de retrouver ce que c'était que de vivre sur cette terre, pour retrouver leurs traditions, leur culture, leur langue. Ils sont allés les chercher, par exemple, comment tanner une peau d'orignal ou monter une tente. Toutes sortes de choses qu'ils doivent réapprendre. Donc c'est une alliance entre des jeunes et des anciens, les anciens. Et c'est là que se trouve l'espoir, je crois.
Tout à l'heure, vous disiez, Jo Sacco, que vous aviez conscience, en écrivant cette histoire, à la fois de vous concentrer sur un territoire spécifique, avec son histoire spécifique, sa population, ses particularités, mais en même temps de parler d'autre chose. De parler de quelque chose qui nous concerne, nous, entre hommes et femmes et enfants et jeunes gens du XXIe siècle. Vous pensez que vous parlez de quoi ?
Je
pense qu'en fin de compte, ce à quoi je réfléchissais, c'était le climat. L'extraction des ressources, mais c'est la spiritualité des dénés qui est vraiment entrée en contradiction avec la manière dont moi j'ai été élevée. D'une certaine manière, on peut dire que c'est un livre anthropologique, mais pour moi c'est plutôt une anthropologie de l'Occident. Parce que quand on réfléchit à la manière dont les dénés pensent la terre, en fait, c'est eux qui appartiennent à la terre, c'est pas la terre qui leur appartient. C'est quelque chose auquel les Occidentaux devraient s'imprégner. Parce que je pense qu'au moment au point où nous en sommes avec le réchauffement climatique, c'est le bon chemin. Et on devrait donner davantage de poids à ce chemin des Autochtones.
D'ailleurs, vous donnez aussi de la place, Jo Sacco, à ces contradictions, à cette anthropologie comme ça de l'Occident, de l'occidental. Lorsque vous dites c'est facile presque d'être contre comme ça l'exploitation des ressources naturelles, la destruction de la nature, mais c'est un peu moins facile de ne plus utiliser son smartphone et de plus conduire sa voiture. Et d'un seul coup, c'est aussi toute une organisation de la vie des vivants et des vivants des villes, notamment, qui doit être changée.
That's very true.
C'est très vrai.
I mean, I think strange thing is we all recognize
it. Ce qui est étrange, c'est qu'on s'en rend tous compte, mais on n'est pas certain de pouvoir changer.
Clearly, we have to think about the structures that have been driving the world.
On réfléchit aux structures qui dirigent le monde et aux décisions que nous avons prises.
And again, I'll say, I think we have to give weight to other ways.
Et encore une fois, il faut donner de la place à d'autres façons de penser le monde.
So we don't think of land as property to be
exploited. Nous ne voyons pas la terre comme une propriété, un bien qu'on peut exploiter.
Finding a new
qu'on n'applaudisse pas quand on trouve
gas, field.
Un nouveau champ de pétrole ou de gaz.
Those things are going to make someone money. They're going to help us get around,
nouveau gisement. But ultimately they're going to kill ça va apporter de l'argent, bien sûr, mais ça va nous tuer, au bout du compte.
Comme ce sont de lourdes responsabilités qui pèsent sur nos épaules en entendant ces mots, on va repartir dans le dessin avec la voix de Benoît Peters.
On se sert de ces apparentes limites, par exemple le fait que les cases elles sont petites, qu'elles sont juxtaposées sur la même page, qu'il n'y a pas le mouvement, etc. Alors il y a des gens qui parfois font des comparaisons avec le cinéma en disant « il vous manque le son, il vous manque le mouvement ». Non, on utilise tout cela. Et effectivement, par exemple, en bande dessinée, il y a une chose qu'on utilise beaucoup, c'est l'ellipse. Alors on est quelques-uns à dire parfois, de manière un petit peu provocante, le plus important dans la bande dessinée, c'est le blanc entre les cases. Pas parce qu'on fétichiserait ce blanc, pas parce qu'il serait la merveille des merveilles et qu'on voudrait partir vers une idée à la Mallarmé. C'est pas ça. C'est simplement que le blanc entre les cases, c'est le rythme, c'est la capacité à suggérer, c'est la capacité à faire fonctionner le lecteur. Combien de fois des gens ne vous décrivent pas votre propre bande dessinée en vous disant « il y a une case que j'adore, c'est le moment où il est en train de faire ceci ». Cette case n'existe pas. Sauf dans l'esprit du lecteur, qu'il a reconstitué à partir de 4 ou 5 images. Je crois que l'art d'un narrateur de bande dessinée, c'est de jouer avec ça, de jouer avec les pleins, les vides, de jouer avec la taille des cases, de jouer avec la page qu'on tourne, et qui tout d'un coup vous ménage une surprise de l'autre côté. Et à ce titre-là, c'est un langage fascinant. Et chez les gens qui dédaignent la bande dessinée, qui méprisent la bande dessinée assez rapidement, qui disent, bon, c'est une sous-littérature. Mais s'ils regardent vraiment ce langage-là, eh ben, il fait des choses tout aussi intéressantes que le cinéma ou la littérature.
La bande dessinée comme un langage propre avec ses rythmes, ses blancs et sa poésie. On entend Benoît Peters ici dans une archive de 2000 diffusée sur France Culture. Il s'agit d'essayer de décrire maintenant, Joe Sacco, ce qu'on voit dans ce livre. Et comment chaque page a sa propre logique. On parlait à l'instant dans la voix de Benoît Peters d'un poème. Ben, on peut considérer que chacune des pages de Payer la Terre est un poème qui s'organise, comme un milieu vivant d'ailleurs, mais à chaque fois différemment. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est un vaste bazar ou est-ce qu'il y a vraiment un truc très 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 organisé?
You know, so much is instinct that
en fait, il y a énormément
d'instincts.
C'est vraiment très difficile de séparer tous ces éléments et d'expliquer pourquoi on a fait tel ou tel choix.
There's a bit of free jazz in it.
C'est un peu comme du free jazz, en fait. On sent que l'histoire part d'un côté. On se dit, bon, mais il va falloir une page de description, ça va ralentir le rythme de lecture. Et puis on arrive à une autre page où on se dit, est-ce qu'il faut que je montre ça ou pas? Par exemple, les pages sur les enfants dans les pensionnats, quand on parle des agressions sur les enfants. J'ai dû décider qu'est-ce que je vais montrer. Et j'ai tendance à juger ce qui est acceptable ou pas selon mes propres normes. On peut imaginer ce qui s'est passé. Et donc c'est ce qu'on va laisser à l'extérieur et que le lecteur va réintégrer dans l'histoire. En fait, on le laisse faire ce travail et on le laisse aussi traiter de cette violence, malheureusement. Donc il y a des manières de jouer avec la page, de jouer avec les mots pour être aussi efficace que possible. Mais la plupart du temps, je travaille vite, je pense que ça aide. Sans réfléchir trop au moment où je le fais. En général, j'y réfléchis après quand les gens me demandent pourquoi j'ai fait telle ou telle chose.
Pourquoi ça aide de travailler vite?
Because it's a long book and it will take a long time.
Parce que c'est un livre qui est long
and you won't get paid
et ça prend du temps et on n'est payé qu'à la fin.
Alors une fois qu'on a dit ça, ce qui est très important hein, et ce qui fait quelques échos au Festival d'Angoulême en ce moment et au rapport Racine en France, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça vous aide à autre chose? Par exemple, j'ai l'impression que quand je vous entends dire ça, l'idée de travailler vite, j'ai l'impression que ça vous permet aussi de garder une sorte de vision d'ensemble dont on parlait au départ. Bosser vite, c'est garder tout ça, comme d'un giron.
There's a truth to that too. I mean, to me,
c'est aussi vrai.
It's all a whole.
En fait, pour moi, c'est un tout. Si je suis trop lent, j'oublie comment les choses s'associent ensemble. En tant qu'artiste, j'ai besoin d'une impulsion, d'une énergie pour dessiner. Parfois, c'est difficile pour moi de voyager parce que j'interromps en fait ce flux. Et on commence à penser deux, trois pages qui arrivent et en leur lien avec les deux, trois pages précédentes. Et on avance à un rythme régulier. Et pour moi, c'est la manière la plus efficace de travailler. Je ne suis pas un perfectionniste. Certains dessinateurs de BD vont repasser sur des choses. Moi, j'essaie d'avoir une quantité de travail faite chaque jour. C'est ça qui fonctionne pour moi, mais je crois que c'est différent pour tous les artistes de bande dessinée.
C'est marrant parce que dans les pages qui représentent des machines ou même des voitures, je me suis dit complètement l'inverse. Je me suis dit, non, vraiment, le type a voulu que ce soit la mécanique la plus réaliste possible, quoi.
Parfois,
quand je dois dessiner de ces énormes machines qui déplacent de la Terre, j'ai presque envie de me tirer une balle parce que j'ai vraiment pas envie de dessiner ça avec tous les détails. Mais je pense que c'est important de montrer le bon véhicule, d'avoir fait les recherches. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour aller creuser les mines de diamants ? Parce que si quelqu'un lit le livre et qu'il s'y connaît en extraction des diamants, il ne sera pas satisfait de voir que ce n'est pas le bon véhicule. Ça fait partie de la manière dont je fonctionne. J'ai essayé de simplifier ma façon de dessiner, mais ce qui sort de mes doigts, ce sont toujours des détails. Et j'ai arrêté d'essayer de me battre contre ça.
Parce que quoi ? Vous auriez voulu atteindre une sorte de dessin d'esquisse ?
Dans mes rêves, oui, je voudrais dessiner comme des esquisses, mais en fait, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on arrive à un certain âge, on a un certain dessin, et d'une certaine façon, on est aussi très limité dans ce dessin. Et puis, on prend conscience finalement que ces limites, c'est un style, en fait, c'est votre style.
Parce que quand on pense, à, par exemple, au paysage où on voit par une perspective une grande, grande profondeur et des sapins à la toute fin du paysage, on se dit que la finesse avec laquelle vous allez dessiner jusqu'aux feuilles des sapins, mais j'entends des sapins qui sont sur la page comme à la mesure du bout de mon petit doigt, c'est tout petit. Ça pourrait être un tout petit trait. Or, jusqu'à la branche, ça existe, Josako. Ça, c'est vous, quoi. C'est votre manière de dessiner.
You know, I'm influenced by Robert Crumb.
Je suis influencée par Robert Crumb. Quand je vois son travail, il dessine une tasse sur une table et elle semble avoir une âme. Elle semble vivante. Et c'est ça que j'essaie d'atteindre. Je pense que tout objet, tout verre d'eau, tout arbre a une mère.
And the mother needs to be honored.
Et la mère, il faut lui rendre hommage.
Her children have been well rendered.
En lui montrant que ses enfants ont été rendus de manière juste.
En quoi vous rejoignez quasiment la pensée du vivant des dénés que vous avez rencontrés, Josako ?
That's a really good point. I like that.
C'est très juste.
But, I mean,
j'aime
I think,
bien ça.
I think,
ça me plaît.
Il y a
énormément de spiritualité dans le monde qu'on ne définit pas comme étant de la spiritualité. C'est peut-être ça qui est la mienne.
On entendait dans cette archive Benoît Peters parler vraiment d'un langage, et il se trouve que ce livre-là, Payer la Terre, en parle beaucoup aussi du langage. À la fois des langues autochtones qui sont effacées dans les pensionnats d'enfants, où on les oblige à parler d'autres langues, mais aussi des langues autochtones, des langues de gestes comme ça, qui resurgissent à la faveur de dialogues intergénérationnels, et puis aussi des langues juridiques, des langues de combat, des langues de traité, des langues de procès. Comme si ce livre-là disait aussi, pour se promener, pour tout comprendre, il faut comprendre les langues, tous ces différents langages.
Interesting point too. I think
ça aussi, c'est intéressant.
Many, many things are going on when you're in.
Je crois qu'il se passe énormément de choses.
A Westerner with your own
quand on est occidental, on arrive avec sa propre langue. Et quand on dit langue, il ne s'agit pas uniquement du vocabulaire au sens littéral, c'est une façon de penser. Et ensuite, vous vous trouvez face à un groupe d'autochtones, de personnes qui ont une cosmologie totalement différente. Et puis, il y a ces croisements entre ces deux cultures. Tout ça est en permanence en train de tourner dans votre tête. Et oui, j'essaie de rapprocher tous ces fils, en quelque sorte, et de montrer la dialectique, en fait.
Le visage ou la tête, mais je préfère dire la tête, c'est un truc qu'on coupe la tête, on en retrouve dans les abattoirs, c'est là où il y a le regard. Et quand on fait un portrait, Le visage n'est pas intéressant en soi, c'est-à-dire que c'est jamais qu'un nez, deux yeux, deux oreilles, une bouche. Les yeux ne sont pas intéressants, c'est le regard qui est intéressant. C'est le regard qui vous attire chez quelqu'un, c'est le regard qui presque, je vais dire, structure toute la physionomie de quelqu'un, et donc finalement l'image, puisqu'on est là pour faire un portrait. C'est le regard qui vous aide à approcher quelqu'un. C'est lui qui dit oui ou qui dit non. La tête ne m'a intéressé que pour ça, que parce qu'il y avait deux yeux qui vous regardaient. Parce que deux yeux morts, c'est pas facile à gérer. Le reste serait presque, je vais dire, vulgaire.
France Culture, par le temps qui court, Marie Ruchot avec Joe Sacco.
Juste avant ce chant traditionnel des Dene Singers, c'est un chant qui s'appelle Round Dance Song. On entendait une archive du photographe Marc Trivier en 1992 sur France Culture, dans les Nuits Magnétiques, dire qu'il préfère les têtes au visage. Et comme ça, juste pour donner une indication à ceux qui nous écoutent, Trivier fait beaucoup de photographies des visages, noirs et blancs, très contrastés, et où les visages sont très présents, comme ça, ils nous attrapent, ils nous happent. Il se trouve que j'ai feuilleté comme ça, là, pendant la musique, Joe Sacco, le livre « Payer la terre », et le nombre de visages comme ça, où le regard est tourné vers nous, directement vers nous, comme si ça nous appelait, et c'est un nombre conséquent. Alors, peut-être que c'est pas conscient au moment où vous construisez votre livre, mais maintenant qu'il est terminé, qu'est-ce que vous en diriez?
Well, I think it's looking. If you want to engage with someone, you look into.
Je pense que quand on veut interagir avec quelqu'un, on regarde leur visage. C'est comme ça qu'on interagit.
Anywhere you go in the world.
C'est comme ça qu'on se connecte partout dans le monde. C'est comme ça que les gens se lient les uns aux autres. Et j'avais envie de ce type de lien, de relation intime en regardant le visage des gens, et je voulais que le lecteur ressente la même chose et ce même rapport avec ces personnes, les regarde droit dans les yeux et réfléchisse à qui ils sont en tant que personnes. C'était vraiment l'idée de dessiner tous ces visages qui nous regardent droit en face.
Parce que ce qui se passe et qui est indéniable et qui est finalement une des questions fondamentales de cette histoire, de ces histoires, c'est que ce sont des humains à qui on a retiré leur totale humanité parfois, leurs paroles ou leurs ressources du vivant. Vous dites partout dans le monde, Joe Sacco, quand on veut prendre lien, quand on veut considérer l'autre, on le regarde dans les yeux. Mais partout dans le monde, ce n'est pas chose si facile. Comment est-ce que vous arrivez à créer ce genre de moment où c'est possible?
I try to give myself time.
J'essaie de me donner le temps de connaître ces gens et de leur laisser le temps de me connaître quand je peux. J'essaie de ne pas arriver en les bombardant de questions directement parce que j'ai 5 minutes alors qu'on s'est
fait.
Parfois, je passe des heures avec quelqu'un.
Let them have hours with me.
Et je les laisse aussi passer des heures avec moi.
It's an exchange in
c'est un échange.
I guess I think of myself as a friendly guy.
Je crois que je me vois comme quelqu'un de plutôt chaleureux.
I'm non-threatening, let's
et
say that.
Qui n'est pas menaçant.
I don't come with a big film crew.
Je n'arrive pas avec une énorme équipe de tournage et caméras. Je suis un petit dessinateur de BD avec un petit carnet et peut-être un enregistreur. Et j'essaie de prendre ça comme un avantage.
Mais probablement, peut-être la légèreté, entre guillemets, de votre équipement, c'est votre passe-partout. Josako, est-ce qu'il y a des endroits dans le monde, des endroits où vous êtes rendu pour raconter le monde tel que vous le faites depuis des années dans vos livres, où c'était difficile ? Ce yeux dans les yeux.
I find that everywhere in the world, I haven't had
partout dans le monde,
bad luck with this.
Je n'ai jamais eu de malchance.
I will say though that
ce que je peux dire par contre,
it was more difficult in some ways,
c'est que c'était plus difficile
engaging with the Dene,
d'une certaine manière d'interagir avec les
Dene,
de créer des liens avec eux en tant qu'occidental parce que j'ai réalisé qu'ils avaient une cosmologie différente.
I had to bring my thinking to a certain point.
J'ai dû cesser de penser à la manière dont je pensais d'habitude, en fait.
Tout à l'heure, vous disiez « je travaille vite parce que je ne suis pas payée pendant que je travaille et que je ne suis payée qu'à la fin ». Alors, ce temps-là, vous vous l'accordez comment ?
I had to learn something different.
En fait, j'ai dû apprendre.
Some elders don't want to be interrupted.
Certains anciens n'ont pas envie d'être interrompus.
They want to talk and tell you a story.
Ils veulent vous raconter une histoire, ils veulent parler, en fait, ils ne veulent même pas que vous enregistriez.
So in those cases,
dans ce cas-là,
j'écoutais
avec autant d'attention que possible, je rentrais chez moi et tout de suite j'écrivais ce dont je me souvenais et ensuite je leur rapportais et je leur demandais si c'était correct. Ils répondaient oui, mais ça non.
Et
ils corrigeaient leur témoignage. Mais j'ai appris à devenir de plus en plus insistant sur cette question d'enregistrement parce que je voulais que ce soit leur voix. Je ne voulais pas paraphraser.
Tout à l'heure, on a dit que le cœur brûlant, c'était cette histoire de pensionnat d'enfants et de maltraitance. Mais ce qui vous a mené sur ce terrain-là, Josako, c'est la question des ressources. C'est la question des extractions, c'est la question des fractures hydrauliques. Alors, on va y revenir un instant, même si vous avez pris des détours. Qu'y avez-vous appris et que transmettez-vous avec ce livre-là, Payer la Terre ?
Well, you know, I have that standard left-wing view about fracking.
Eh bien, j'ai un point de vue plutôt de gauche libérale qui est que l'extraction des ressources et le fracking, la fracturation hydraulique, c'est quelque chose de négatif. Et je le pense toujours. Mais je voulais montrer le point de vue des Dene. Et en fait, ils ne sont pas tous contre la fracturation hydraulique. Il y a des conflits au sein des communautés sur ce sujet. Et il y a des conflits entre communautés sur l'extraction des ressources et sur la fracturation hydraulique. Ce qui était important pour moi, c'était de montrer toute cette diversité des voix des Dene et d'oublier mon propre point de vue, en fait.
Et il y a aussi un autre rapport comme ça qui est déconstruit dans Payer la Terre, c'est le rapport à la modernité, on va dire ça comme ça de manière un peu rapide. De même, on pourrait considérer qu'il y a une opposition qui est très rapidement expliquée entre un mode de vie d'aîné, ancestral, comme ça, hérité des Premières Nations, et la modernité de la vie du 21e siècle, avec toute la technologie possible, et qu'il y aurait une forte opposition. Et en fait, c'est plus compliqué. Et il y a une planche comme ça où il y a un vieil homme qui dit « Non, moi je veux que mes enfants aillent à la ville, qu'ils vivent dans un appartement et qu'ils aient le confort d'être éduqués autrement que dans la forêt. » Et on est obligé d'ajouter un peu de nuance à nos a priori.
Oui, il y a eu beaucoup de nuances, en fait, que j'ai découvertes. On arrive toujours avec ses préjugés, avec ses idées préconçues. Et on apprend, on se détrompe. Ce sont des gens qui ont une façon de penser plus traditionnelle, qui sont confrontés à la modernité. Et pour eux, c'est beaucoup plus clair, en fait, de ce qu'était le passé et ce que sera l'avenir. Les distinctions sont très nettes. Le passé est très différent de la modernité. Alors que nous, en Occident, on a tendance à suivre le courant. S'il y a un nouveau produit, on l'accepte. Et puis, s'il y en a un encore plus nouveau, on accepte le plus nouveau. Mais même aujourd'hui, les communautés d'aînés doivent se poser la question de qu'est-ce que ça signifie d'avoir des téléphones portables. Et ils ont une chance de le critiquer, une opportunité de le critiquer, alors que nous ne le faisons pas. Nous l'acceptons simplement, comme ça vient.
Il y a des pistes possibles de revenir à des modes de vie comme ça, basés sur l'auto-subsistance. Est-ce que vous avez l'impression que ce genre de choses qui sont très contextuelles, elles peuvent être importées dans des milieux urbains aux États-Unis ou en Europe? Pas tant les modes de vie, mais une sorte de manière de repenser notre rapport à notre environnement et à nos existences.
I think those things already exist because,
je pense que ça existe déjà.
We talk a lot about sustainable farming. We
on parle beaucoup d'agriculture durable.
Bringing things straight from the farm to the table.
On parle beaucoup de direct du producteur à l'assiette.
Middle class people,
mais malheureusement, seuls les gens de la classe moyenne et les gens qui ont de l'argent peuvent réfléchir de cette manière-là. Le principal problème en Occident, c'est qu'il y a beaucoup de gens à nourrir. Beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent et qui n'ont pas le luxe d'avoir ces choix qui sont bons pour l'environnement. Donc, de façon structurelle, il y a des changements à faire pour que ce soit possible pour
nous.
Sinon, nous ne sommes qu'entre bourgeois qui discutons de notre recyclage de nos bouteilles de vin.
Et ça ne change pas grand-chose.
Ce qu'on apprend d'abord, c'est à s'exposer et à amener l'idée qu'on existe auprès du lecteur en tant que personne. Que le dessin n'est pas quelque chose de, disons, qui est issu d'une génération spontanée avec une machine ou je ne sais pas quoi. C'est un être qui parle derrière le dessin, même quand il raconte des histoires qui n'ont apparemment aucun rapport avec lui-même. Pour moi, en tout cas, la première fois que je me suis représenté, j'ai eu l'impression de briser un tabou, de passer une frontière. C'était très, très curieux. Mais je me suis représenté d'une façon assez idéalisée. Je me suis fait tout bien, impeccable. Il fallait que je me reconnaisse dans le dessin. Et puis, c'est petit à petit que le nez a commencé à devenir de plus en plus proéminent parce que c'était le signal qu'on rentrait dans l'humour. Alors qu'auparavant, c'était les situations qui étaient humoristiques. Et puis peu à peu, c'est le personnage qui est devenu grotesque, qui est devenu pathétique. Et en même temps, avec le dessin, et en tout cas le type de dessin que je pratique, je peux à tout moment revenir.
À tout moment revenir. C'est une archive de Moebius. On est en 2011 sur France Inter. Il dit « Je me souviens de la première fois où je me suis représentée. » Vous, Joe Sacco, vous avez une manière toute singulière d'exister dans vos propres livres. Alors, on l'entendait dans votre esprit critique, dans la manière dont vous faites aussi l'analyse de vos propres questionnements, de vos propres chemins, de vos propres a priori intellectuels. Mais vous avez aussi une manière, plastique d'exister. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes fait exister dans une page?
You know, I came out of this autobiographical tradition that
Eh bien, moi, je viens d'une tradition autobiographique des dessinateurs de BD nord-américains.
And I mean, it's kind of it's very self-reflective to draw yourself.
Ça pousse à beaucoup réfléchir sur soi, en fait, de se dessiner. C'est sans doute le personnage le plus facile à réfléchir.
My character looks nothing like me.
Mais beaucoup de gens disent « Ah, mon personnage ne me ressemble pas du tout ».
Really, you draw
Mais en fait, on se dessine comme on se ressent.
That's kind of where I'm trapped now.
Et c'est là où je suis un petit peu coincé maintenant, en fait. Je me dessine comme je me ressens.
Pourquoi vous êtes coincé?
Because in some ways I realize it's not an accurate physical representation.
Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas une représentation physique qui est très juste de ce que je suis. Mais en fait, ça reflète justement une part de mon psychisme, qui est toutes ces questions que je me pose, ces doutes où je me demande toujours si je dis ce qu'il faut, si je ne devrais pas parfois me taire.
Et alors?
I've put my foot in my mouth many, many times.
Je me tais souvent.
It's all true.
C'est tout ça est vrai.
Comment est-ce que vous décririez à nos auditrices et nos auditeurs la manière dont vous vous dessinez?
Well, I guess I draw myself as
je crois que je me dessine
sort of a round head,
avec une tête toute ronde, un gros nez,
big lips because I
des grosses lèvres, parce que j'ai un fétichisme pour Mick Jagger,
glasses and you cannot see my eyes.
Et des lunettes qui empêchent de voir mes yeux.
Pour quelqu'un qui est très intéressé dans les regards, c'est drôle. Vous êtes parti de ce territoire des dénés. Vous avez fini ce livre dans un élan d'espoir ou à l'inverse, Joe Sacco?
A lot of things were going on in my head.
Il se passait beaucoup de choses dans ma tête.
I realize the great difficulties
J'ai réalisé que les grandes difficultés pour les peuples autochtones existaient partout dans le monde, mais j'ai vu aussi beaucoup de résilience. Des jeunes, peut-être pas tous les jeunes, mais un petit groupe qui réfléchissent à leur place dans le monde et à ce qu'ils veulent. Et à ce qu'ils veulent aussi de le garder de leur passé, et qui travaillent pour ça. Et ça, ça m'a donné de l'espoir.
Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été aussi dépositaire? On a commencé cette émission en parlant de la tradition orale, de la transmission des récits, mais aussi des gestes et des façons de penser. Vous avez été dépositaire d'une transmission.
I have to be careful about how I answer that one because je dois faire attention à la manière dont je réponds à cette question. En fait, je ne suis pas un porte-parole des Dene. Je voulais me concentrer autant que possible sur ce qu'ils m'ont dit et essayer de le montrer, en m'en faire le reflet. Je suis un outil, un vaisseau, en fait, pour leur message. Mais il y avait bien sûr une réflexion personnelle que j'en ai tirée. J'ai eu le sentiment d'être parmi des gens qui avaient une manière de voir le monde, qui avaient des choses à m'apprendre, et que le lecteur avait aussi tout intérêt à y apprendre des choses.
Mais que votre place est une place de journaliste et de reporter.
Oui,
c'est mon rôle, en tout cas dans ce cas en particulier. Un grand merci, Josako, d'avoir été avec nous. Le titre de ce livre, de ce très beau livre, s'appelle « Payer la terre, redonner à la nature ce que la nature nous a donné ». C'est paru chez Futuropolis et 21. Et merci, Marguerite Capel.
Merci.
Et je rajoute qu'on pourra vous écouter dans une rencontre publique ce lundi 3 février au Centre Pompidou à Paris et qu'on pourra vous écouter dans une grande rencontre là aussi le 16 février, dimanche après-midi, dans l'émission de Victor Massé de l'Épinay, Rayon BD.
You sound like the beat of a longing heart. You dance like leaves dance towards the ground.
À la réalisation ce soir, c'était Charlotte Roux. À la prise de son, c'était Sylvain Latu. Par les temps qui courent, c'est Julie Ascal, Romain de Bec-de-Lièvre, Marianne Chassor et Jeanne Aléos. C'est aussi une page sur franceculture.fr, page de Par les temps qui courent, et un podcast qu'on peut trouver sur l'application Radio France, par exemple. Dans un instant, c'est le journal, 22h sur France Culture. Très belle soirée à toutes et à tous.